Bonsoir et bienvenue dans cette émission vers une réduction de moitié du budget de la RDC pour l'exercice 2020. Initialement adopté à plus de 10 milliards de dollars américains, ce budget vient d'être réduit à 5 milliards par le gouvernement congolais. Les projets de loi rectificatives examinés hier à l'Assemblée nationale a été reçu sans débat et envoyé à la Commission économique et financière pour relecture. Cette réduction de budget est notamment une conséquence de la crise sanitaire due à la pandémie du coronavirus, a expliqué le vice-premier ministre et ministre des budgets devant les députés. Comment expliquer cette diminution du budget de l'État et quelles conséquences cette réduction de budget a eu sur les priorités du gouvernement? C'est à ces questions que nous allons tenter de répondre. Et nous recevons dans cette émission M. Jean-Marie Bamporiki, le directeur de cabinet du vice-premier ministre et ministre des budgets. Bonsoir M. Jean-Marie Bamporiki.
Bonsoir Guy Maté.
Steve Kivuata, membre de la cellule politique et communicateur de la MUCA. Bonsoir M. Steve Kivuata.
Bonsoir.
Et Fabrice Ngabo, il est chercheur et consultant en fiscalité et finances. Bonsoir, monsieur Fabrice Ngabo.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Comme nous le disons dans les sommaires, le budget de la RDC pour l'exercice 2020, initialement adopté à plus de 10 milliards de dollars américains, vient d'être réduit à 5 milliards par le gouvernement congolais. Le projet de loi rectificative du budget 2020 a été examiné hier mercredi à l'Assemblée nationale. Projet déclaré recevable à l'unanimité. À la suite d'une motion incidentielle du député Henri Thomas Lokondo, cette loi a été envoyée sans débat à la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale. Dans sa présentation, le vice-premier ministre et ministre des budgets a expliqué la révision à la baisse du budget par notamment la crise sanitaire due à la pandémie au coronavirus. Jean-Baudouin Maillot est au micro de Michel Kifinangoy.
Comme le budget de l'année arrive, il faut réserver ce débat à ce moment-là et aller vite avec ce projet de loi qui ne fait que rectifier le budget qu'ils ont déjà examiné, souvenez-vous-en. Je trouve que c'est un signe de maturité de la part de notre Assemblée nationale. Covid est passé par ici, je ne suis même pas sûr qu'elle soit partie, mais Covid a été ici et a paralysé notre économie. On a fermé, on a confiné et les gens ont perdu de l'emploi. Donc les conditions de réalisation des objectifs du budget 2020 n'étaient plus réunies. Il fallait donc venir auprès de l'autorité budgétaire, qui est l'Assemblée nationale et le Sénat, pour leur dire les raisons et qu'ils puissent faire des ajustements.
Jean-Marie Bamporiki, directeur de cabinet du vice-premier ministre et ministre du budget. Le projet de loi rectificative du budget 2020 a été examiné hier mercredi à l'Assemblée nationale. Projet déclaré recevable à l'unanimité et envoyé à la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale. Monsieur Bamporiki, c'était un secret des polichinelles. On savait que le gouvernement avait déjà pris la décision, n'est-ce pas, de revoir à la baisse le budget exercice 2020. Et pourquoi c'est seulement en ce moment-ci, à 2 mois de la fin de l'année, qu'il est examiné par l'Assemblée nationale?
Merci beaucoup pour la question. Je pense qu'elle a obtenu déjà réponse hier de la bouche de son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre du budget, dans son discours. C'est qu'il y a eu le problème de la clôture de la session passée, donc l'entrée en congé parlementaire du Parlement, qui a fait que la matière, bien que étant prête, a dû attendre la session actuelle pour intervenir. Alors, il était nécessaire qu'elle intervienne parce que nous tendons vers la fin de l'année et nous sommes au niveau du Parlement dans une session budgétaire. Il était de bon aloi qu'on puisse remettre tous les comptes actuel à jour pour une bonne poursuite de l'examen et de l'adoption des comptes pour la période à venir.
Nous venons de suivre le vice-premier ministre et ministre du budget Jean Baudouin Maillot qui justifie cette réduction par les raisons sanitaires, notamment la pandémie de Covid-19. Monsieur Bamporiti, nous nous rappelons que c'est au mois de mars que le pays avait été affecté par cette maladie, mais que avant cela, il y avait déjà un débat sur le caractère irréaliste de ce budget, initialement évalué à environ 11 milliards de dollars américain. Est-ce que la Covid-19 n'a pas été utilisée comme simple prétexte pendant que les raisons réelles sont connues, notamment, comme le disent beaucoup d'experts, les difficultés que le pays connaît pour mobiliser les recettes?
Le pays, c'est vrai, a comme principale difficulté la capacité à mobiliser les recettes, mais cette fois-ci, c'est vrai aussi que c'est largement justifié par l'avènement de la COVID. Vous parlez de mars. C'est vrai dans la mesure où nous considérons l'avènement de la COVID en RDC. Mais au niveau international, vous allez vous rappeler que c'est pratiquement depuis le mois de novembre 2019 que COVID s'était déjà manifesté en Chine, qui s'avère être le principal partenaire de la RDC pour l'exportation des produits miniers et qui font l'essentiel de notre produit intérieur brut. Donc de ce côté-là, nous avions déjà un choc qui a entraîné un ralentissement dans la production des recettes du secteur minier, ce qui a eu un impact négatif sur la capacité à collecter les recettes pour l'État. Et donc, vous comprenez que ça ne pouvait nous amener vers cette spirale baissière en matière de budget.
Et ce projet de loi rectificative a été déclaré recevable à l'unanimité et envoyé sans débat à la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale. Et pourquoi, à votre avis, il n'y avait pas eu de débat?
Justement parce que la représentation nationale a été acquise par l'évidence de la conséquence de la COVID, et ce, sur le plan international, parce que c'est toute l'économie du monde qui a été frappée par cette pandémie. Vous l'avez suivi. C'est dans tous les États du monde qu'on est en train de revoir les prévisions, étant donné que les projections des croissances ont été contredites partout au monde.
Nous savons que d'ici là, le gouvernement va revenir, n'est-ce pas, au Parlement pour défendre le budget, le projet de budget 2021. Et on sait que la pandémie Covid est encore là. Et à votre avis, que faut-il faire pour que le budget 2021 ne soit pas à son tour influencé considérablement par la pandémie Covid-19?
Le budget 2021 ne peut pas ne pas être influencé par la pandémie, parce que le budget, c'est le reflet de l'économie, c'est le reflet de la production des richesses. Or, avec le ralentissement de l'économie, de l'activité économique, il y a fatalement eu conséquence sur la capacité à produire les recettes, et donc conséquences sur la capacité à aligner un budget d'un niveau élevé, quoi. Donc, on ne peut pas envisager un budget 2021 sans penser aux conséquences de la COVID.
Voilà, vous dites que ce budget ne peut pas ne pas être influencé par la pandémie de Covid-19. Vous n'avez pas tort, mais M. Bamporiti, on voit les efforts que beaucoup de gouvernements à travers le monde sont en train de fournir, n'est-ce pas, pour tant soit peu essayer d'amortir les chocs. Et pourquoi le gouvernement congolais ne ferait pas comme d'autres gouvernements à travers le monde?
Mais le gouvernement congolais fait de son mieux également pour amortir le choc. C'est d'ailleurs dans cette autre idée qu'il y a eu nécessité de présenter une loi de finances rectificative et qui a été élaborée sur fond du programme multisectoriel d'atténuation des effets de la COVID-19, justement, donc, où il y a un accent plutôt sur les dépenses liées à la COVID-19, donc la prise en charge des malades, l'approvisionnement du pays en produits médicaux pharmaceutiques et le financement des activités de production, notamment dans le secteur agricole et du développement rural. Donc voilà.
Merci Steve Kivota, membre de la cellule politique et communicateur de la MUCA. Le projet de loi rectificative du budget 2020 a été examiné hier mercredi à l'Assemblée nationale. Et projet déclaré recevable à l'unanimité et envoyé à la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale sans débat. Et vous avez suivi les explications de M. Jean-Marie Baporiki qui justifie le fait qu'il n'y avait pas eu débat parce que les députés étaient devant une évidence. Ils ont compris, n'est-ce pas, les raisons qui ont été expliquées par les gouvernements, notamment la COVID-19. Comment vous réagissez à ces explications?
J'estime que M. Baporiki aurait dû commencer par présenter des excuses à tous les Congolais.
Pourquoi?
Au monde des affaires et aux partenaires extérieurs. Parce que, au nom de M. Félix Tshisekedi, Dulongai Lukamba et de tous les gouvernements, parce qu'ils ont menti aux Congolais. Déjà, en janvier, M. Félix Tshisekedi promulguait un budget à la hauteur de 11 milliards de dollars. Ça suppose des augmentations de salaire pour les fonctionnaires, ça suppose des constructions de routes, des investissements divers pour le Congolais, ça suppose des opportunités en termes de marché public à gagner pour les hommes d'affaires, ça suppose de partenariats avec le monde extérieur, le FMI et la Banque mondiale, etc., etc. Mais ils doivent présenter des excuses parce que ce n'est qu'un mois après, sous pression du FMI, qu'ils ont dû réduire le budget de moitié. Mais cette fois-là, en estimant que c'était qu'un simple plan de trésorerie. Mais un plan de trésorerie qui était annuel. Pourtant, le plan de trésorerie est trimestriel. Déjà, en ce moment-là, ils n'ont pas assumé leur faute grave de mentir aux Congolais qu'ils pouvaient être capables de mobiliser un budget de 11 milliards de dollars. Déjà, en ces moments-là, ils auraient dû réduire ce budget de manière formelle au niveau du Parlement. Mais ils attendent pratiquement 2 mois pour finir l'année 2020 pour venir présenter ce qu'on ne peut plus appeler un budget. Ce n'est qu'un rapport d'exécution du budget 2020 parce que ça ne va plus servir à rien. Un budget, c'est une prévision qui sert effectivement à prédisposer tous les Congolais, le monde des affaires, à prédisposer le partenaire extérieur pour savoir comment est-ce qu'ils doivent travailler avec la République démocratique du Congo. Mais ils nous ont mis dans la confusion. Mais ils amènent encore de faux prétextes, des raisons fallacieuses pour dire pourquoi, finalement, c'est tard qu'ils amènent ce collectif budgétaire et pourquoi ce collectif budgétaire n'est rien du différent avec le plan de trésorerie présenté en février, c'est-à-dire un mois après qu'il nous ait présenté un budget de 11 milliards. Premièrement, ils disent la COVID-19. C'est un mensonge, encore une fois de plus. Pourquoi? Parce que nous savons que en février, lorsqu'ils réduisaient le budget de moitié par le plan de trésorerie, nous n'étions pas encore en COVID-19. Si M. Baporiki estime que la COVID-19 était en novembre, alors il n'aurait pas dû effectivement en janvier, nous promulguer un budget de 11 milliards de dollars. Donc, ils sont toujours dans le mensonge. Deuxième mensonge, ils disent, bon, le Parlement était en congé du fait de la COVID-19. Encore une fois de plus, c'est faux. Parce que nous tous, nous avions vu le Parlement siéger en pleine COVID-19. Et bien plus, c'est en mars que le Premier ministre Ilunga Ilukamba est allé au Parlement leur promettant de revenir très bientôt avec un collectif budgétaire.
Steve Kivota?
Oui, allô?
Voilà, parce que vous estimez que cette raison de COVID-19 est un simple prétexte. À votre avis, quelles sont les raisons qui peuvent expliquer cette réduction du budget 2020?
Ils ont déjà été incapables, dès le départ, de faire un budget meilleur que celui qu'ils viennent à peine de présenter. Vous savez déjà que en janvier, en février, ils ont déjà connu un déficit budgétaire de 100 millions de dollars. Donc il n'arrivait même pas à mobiliser 450 millions de dollars qui constituent le montant qui correspond aux dépenses contraignantes mensuelles du gouvernement. En réalité, c'est leur incapacité d'avoir un programme qui contient de véritables réformes pour pouvoir augmenter les recettes de l'État. Ne fût-ce que même les trains de vie de l'État, ils ont été incapables de les réduire. Vous savez que la présidence, le gouvernement a toujours été en dépassement budgétaire pendant qu'on était en pleine Covid-19. En réalité, la véritable cause, c'est leur incapacité d'avoir une vision, un projet qui peut réellement produire de réformes. Aujourd'hui, les secteurs des entreprises publiques ne produisent pas suffisamment de recettes pour l'État. Ils n'arrivent pas à mettre fin à la corruption. Ils n'arrivent pas à mobiliser suffisamment de recettes dans le secteur minier. Il y a plusieurs actifs miniers qui sont bradés. Donc, il y a, en fait, en bref, c'est l'incompétence. Si le Parlement congolais était sérieux envers lui-même, il aurait dû tout simplement voter une motion de censure contre ce gouvernement et les renvoyer effectivement à la maison parce qu'ils sont incapables de travailler pour la population, mais ils viennent avec de faux prétextes. Donc toutes les raisons qu'ils sont en train d'énumérer sont de fausses raisons. Comme je vous l'ai dit, le Parlement était en session, M. Ilunga Ilukamba a promis en mars de venir avec un collectif budgétaire, mais c'est 6 mois après, ou presque 7 mois, qu'il revient avec un collectif budgétaire qui n'aura qu'un objectif comptable.
Et donc là, vous voulez dire que même sans cette pandémie de Covid-19, la RDC aurait été dans l'obligation de réduire son budget 2020?
Effectivement, parce que je vous dis qu'ils l'ont réduit par un plan de trésorerie annuel qui était des 5,5 milliards de dollars. Aujourd'hui, les collectifs budgétaires est des 5,7 milliards de dollars. Donc, même sans la Covid, ils étaient obligés, même depuis février, de réduire ce budget. Mais ils ont attendu longtemps parce qu'ils n'ont pas voulu perdre la face. En janvier, ils présentent un budget de 11 milliards. Le réduire un mois ou deux mois après, ça allait vraiment être une contre-performance. Alors la Covid, merci Covid, disons-le comme ça, est venue un peu les aider. Mais malheureusement, malgré la Covid, rappelez-vous que même celui qui a géré le fonds de la Covid est aujourd'hui poursuivi. Même le fonds, le quelques millions de dollars qui ont été orientés vers la lutte contre la Covid, a été mal géré. Le vrai problème, ce n'est pas la Covid, le problème c'est la mégestion, la mauvaise gouvernance, l'incompétence du gouvernement actuel.
Merci,
et
merci.
Vous vous rendez compte, je finis par là, vous vous rendez compte que malgré la Covid, ils ne font que s'engraisser. Toutes les demandes qui ont été faites de réduire le train de vie de l'État, rien n'a été fait. Leurs salaires sont toujours faramineux, le frais de fonctionnement sont toujours pompeux. Ils n'ont pas le souci du peuple.
Merci, nous vous gardons encore dans cette émission. Fabrice Ngabo, chercheur et consultant en fiscalité et finances, et comment vous analysez cette réduction du budget 2020?
Merci beaucoup de la parole, monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord commencer par exprimer la déférence de courtoisie pour saluer tous les invités réunis autour de ces sujets. Monsieur Bamporiki et monsieur Kivuata, également vous remercier pour une fois de plus de nous avoir associés à ce débat. D'entrée de jeu, je voudrais commencer par rappeler le contexte économique et social dans lequel le budget 2020 a été voté. Nous sommes en 2018, à l'issue des élections de décembre, le président de la République a été élu. Il entre en fonction début 2019, il trouve une loi de finances, donc un budget, de près de 5 milliards qui a été voté par la législature passée. Ce budget a été exécuté à près de 80%, ce qui signifie qu'au moins ceux qui l'ont exécuté et ceux qui l'ont voté étaient plus ou moins réalistes. En 2020, il s'agit là maintenant des tout premiers budgets votés sous la législature actuelle. Vous allez vous rappeler, parce que nous en avions discuté longuement dans votre émission, le premier projet de loi de finances qui a été déposé par le gouvernement au Parlement, il était de 7 milliards de dollars. Par la suite, la population s'est levée pour contester le caractère modique de ce budget. Le gouvernement a introduit un autre projet de loi de finances de 10 milliards de dollars. Enfin, le Parlement va voter, dans la dernière version en tout cas, le budget de 11 milliards qui a connu des problèmes sur lesquels nous revenons aujourd'hui. Alors, je voudrais me questionner un tout petit peu. Quels sont les éléments économiques et financiers, les éléments techniques qui ont permis au gouvernement, à son temps, pour le vote de ce loi, de passer de 7 milliards à 10 milliards et pour le Parlement de 10 milliards à 11 milliards? faut retenir qu'en finance publique, il y a deux éléments majeurs qui peuvent permettre de rehausser un budget. Il y a soit une évolution positive de l'activité économique, qui devait être appréciée, elle suit évidemment d'une étude, mais également des réformes fiscales qui devaient être envisagées. Il est impossible de penser revoir à la hausse du budget de près de 50% sans soit une évolution positive de l'activité économique ou, à la limite, des réformes fiscales. Sous d'autres cieux, lorsqu'il y a de nouvelles ambitions, la seule chose que l'on fait pour rencontrer effectivement ces attentes, c'est de mettre en œuvre des réformes fiscales. Or, là, je constate que ces éléments n'ont pas eu lieu et donc, nous sommes là face à une sorte de tâtonnement qui a présidé l'intention de pouvoir élever le budget de 5 milliards à 11 milliards. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, le deuxième élément, dans sa mise en application, il y a eu effectivement des problèmes auxquels il fallait s'attendre parce que nous nous sommes réunis autour de ces sujets plusieurs fois et nous avions démontré que, en dehors des réformes fiscales, il était impossible de pouvoir réaliser ce budget. Vous savez, sur le premier semestre, quelle a été la hauteur des mobilisations? La hauteur a été de 1,6 milliard, c'est-à-dire le gouvernement ayant prévu de mobiliser 11 milliards, il n'a même pas mobilisé 1,7 milliard sur le premier semestre 2020. Voyez-vous? Et donc, aujourd'hui, que l'on dise qu'il s'agit plutôt là des effets induits du coronavirus, je me dis mais c'est pas quand même assez juste, parce que vous allez vous rappeler, déjà au mois de février, nous avions du haut de votre micro décrié le déficit budgétaire de plus de 114 millions de dollars, n'est-ce pas? Est-ce qu'en février, coronavirus avait déjà impacté sur notre économie? Que l'on parle de l'économie internationale qui était déjà affectée, mais je me dis non, non. La problématique des mobilisations ne commence pas avec la nouvelle législature. C'est une problématique qui a existé et à mon sens, je crois qu'on devait être humble pour dire, eh bien, nous avons reconnu des failles et voilà ce qu'il faut faire pour résoudre le problème. Oui, allô, vous me suivez?
Oui, voilà. Donc, ce qui est arrivé n'est que, selon vous, la suite logique de l'incapacité, comme l'a dit Steve Kivuata, de l'incapacité du gouvernement à pouvoir mobiliser les ressources suffisantes, conséquence, n'est-ce pas, d'un déficit des réformes sur le plan des fiscalités, comme vous venez de le souligner?
Tout à fait, tout à fait. Et cette incapacité doit être expliquée. Il n'y a que lorsque l'on comprend le problème que l'on peut envisager les solutions et les bonnes. D'abord, lorsque le gouvernement est investi, c'est sur base d'un programme quinquennal. Ce programme-là, il est mis en application année par un budget qui est une loi des finances votée au Parlement. Alors, lorsque un budget est voté, il doit impérativement être suivi des mesures d'application cohérentes. Et les mesures d'application ne sont pas une litanie théorique. Les mesures d'application, ce sont des réformes fiscales qui sont techniques et pratiques. Et c'est même l'occasion de vous rappeler que nous avions même eu l'initiative d'en concevoir un certain nombre que nous avions proposé au président de la République à son temps, mais il ne s'y était pas intéressé parce que tout simplement les gens étaient dans les considérations de l'accord Alliance, c'est pas moi, FCC Cash, ça n'a pas permis les choses d'avancer. Et donc moi je crois qu'aujourd'hui, on doit s'arrêter et se questionner sur les véritables raisons qui ont conduit à cette faiblesse.
Alors, parce qu'on doit s'arrêter et se questionner sur les véritables raisons de cette réduction, et à votre avis, quels sont les mécanismes qui peuvent être mis en place pour que, parce qu'on parle déjà du budget 2021 et la maladie est encore là, alors quels sont les mécanismes qui peuvent être mis en place pour que les impératifs sanitaires ne puissent plus impacter de façon considérable les budgets, les projets de budget 2021?
Voilà. D'abord, il faut corriger. La proportion d'impact de coronavirus sur notre budget, s'il faut l'évaluer, vous allez comprendre que ce n'est pas en réalité ça qui a permis à ce qu'on en arrive à ce niveau-là. Alors, s'il faut parler maintenant de ce qu'il faut faire, voilà, une très bonne question. Il faut mettre en place des réformes. Et les réformes, je vous les donne. si on les met en place, eh bien, on peut se retrouver à l'issue de l'exercice 2021 qui doit être envisagé avec un budget de 12 milliards réalisé facilement parce que les études qui ont été menées à ce sujet l'ont scientifiquement démontré. Il faut, première chose, il faut mettre en place un mécanisme pratique, contraignant et répressif pour lutter, mettre fin, si pas réduire considérablement, les pratiques fiscales illégales. Quand on parle de la fraude, quand on parle de la corruption, quand on parle de la contrebande et que sais-je encore, c'est des problèmes qui sont réels, auxquels on ne peut pas prétendre mettre fin avec des simples initiatives théoriques. Donc il faut un mécanisme pratique, contraignant et répressif, dont d'ailleurs depuis plusieurs temps nous avons le modèle. Deuxième chose, il faut parachever le processus d'informatisation des régies financières. On ne sait pas comprendre qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information et des communications qui conditionnent le développement de l'humanité, nous avons des régies financières qui sont informatisées à un certain niveau très faible. Cela contribue considérablement à l'incapacité du gouvernement à
Merci.
Pouvoir utiliser les recettes. Autre chose, c'est très très important, c'est que aujourd'hui, nous sommes pratiquement le seul pays qui évolue en dehors du domaine des conventions fiscales internationales. Vous avez les pays les plus avancés, notamment la France et les autres. La France, par exemple, qui en a 88. La RDC, aujourd'hui, n'en a que deux. Il faut que les politiciens comprennent qu'il est temps de se débarrasser de tous les débats qui, en réalité, n'intéressent pas la population et d'entrer dans les débats qui sont tout à fait techniques.
Merci,
aujourd'hui, les rapports
Fabrice.
Commerciaux sur le plan international, il faut noter qu'ils ont évolué. Le continent asiatique, aujourd'hui, a une percée considérable sur le plan du commerce international. C'est ainsi que nous plaidons depuis un temps pour que la RDC envisage une convention fiscale bilatérale avec la Chine, une convention avec l'Inde,
Merci.
Le Liban, les États-Unis et le Nigeria.
Merci.
Permettre aux institutions d'être à la hauteur des ambitions de la population.
Merci, M. Jean-Marie Bamporiki. Vous allez réagir aux propos de Steve Kivuata et à l'analyse de Fabrice Ngabo. Mais avant ça, vous allez aussi écouter cette réflexion de l'auditeur qui nous appelle depuis Bukavu au sud Kivu.
Isaac Bamporiki de Bukavu au sud Kivu. Le coronavirus est devenu le bouc émissaire auquel on attribue tous les effets de la médiocrité dans la gouvernance du pays. Le nouveau régime veut-il prétendre qu'il ignore un seul circuit d'écoulage des recettes publiques et la multitude d'entreprises exonérées appartenant aux partenaires politiques qu'il ne faut pas oser toucher pour ne pas envenimer davantage les relations déjà très tendues entre les deux camps au pouvoir? Sans parler du caractère budgétivore du gouvernement de complaisance et des avantages accordés aux anciens tenants du pouvoir, comment voulez-vous que dans de telles conditions, notre budget n'aille pas de minoration en minoration?
Monsieur Jean-Marie Bamporiki.
Merci, merci beaucoup, Guy Maté. Oui, je salue les amis avec qui nous sommes sur votre plateau. Alors, à Steve Kivuata, je dois dire que non, le gouvernement n'a pas menti à la population. Je crois que Patrick Ngabo lui a donné la réponse. Le budget de 11 milliards ne peut pas être considéré comme une utopie parce que les paramètres en présence le justifient amplement.
Quels sont ces paramètres-là qui justifiaient de prévoir un budget de 11 milliards de dollars?
On va même évoquer le montant de 12 milliards. Je vais venir à ce que vous venez de poser comme question. Le produit intérieur brut sur base duquel on a évalué la capacité à mobiliser les recettes en 2020 était attendu à la hauteur de 60 milliards de dollars américains. Si vous prenez la moyenne de la pression fiscale en Afrique centrale qui est de 20%, 20% de 60 milliards, ça fait 12 milliards de dollars américains. Alors, nous avons aligné un budget de 11 milliards. Donc, nous n'étions pas dans des chimères, non.
Et puis, mais le même Fabrice Ngabo, dont vous rappelez, n'est-ce pas, les propos ici, a affirmé qu'il était impossible de penser réaliser un tel budget là où il n'y avait pas de réforme fiscale.
Là, encore une fois, je suis d'accord avec lui. Mais toutes ces réformes qu'il a citées là ont été bel et bien projetées dans le cadre du budget 2020. Mais encore une fois, l'effet coronavirus est passé par là. Vous n'allez pas ignorer le fait que pendant un temps, toute la vie, surtout ici à Kinshasa, cœur de l'économie congolaise, était paralysée. tous les services de l'État ici étaient réduits au service minimum. Donc ça ne pouvait pas ne pas avoir des conséquences sur toutes les stratégies mises en place pour l'augmentation de la capacité de mobilisation des recettes. Donc il faut se dire que les résultats ne sont pas à la hauteur des réalités économiques du pays, ça, j'en conviens. Mais la raison principale demeure l'effet coronavirus.
Oui, la raison principale demeure l'effet coronavirus. Mais que répondez-vous à Steve Kivuata, qui lui estime que la vraie raison, la raison valable, c'est plutôt la mégestion et l'incompétence du gouvernement, et aussi Fabrice Ngabo qui parle du manque, n'est-ce pas, des mécanismes contraignants qui pouvaient permettre au gouvernement de lutter contre les pratiques fiscales illégales.
Oui, Steve Kivuata a droit à avoir sa position à lui en tant que membre de la MUCA, je la lui concède. Mais je reviens sur ce que je viens de dire, la nécessité des réformes, mais elle a été exprimée par le gouvernement déjà comme mesure d'accompagnement de la loi de finances 2020 que nous sommes en train d'exécuter et qui est en pleine révision. Et puis n'oubliez pas que cette loi de finances a été quand même adoptée en 2019, donc vraiment avant, effectivement avant qu'on ne puisse penser au coronavirus. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Mais il faut se dire que une loi de finances se prépare déjà à partir du mois de juillet-août au niveau de l'administration.
Il y a Marie Mabrouki.
Allô, oui.
Est-ce que la COVID-19 pouvait empêcher au gouvernement de combattre, comme l'a souligné dans son analyse l'auditeur de Bukavu, Isaac Baporiki, est-ce que cela pouvait empêcher au gouvernement de combattre les circuits de coulage des recettes publiques qui est connu de tout le monde et qui n'a jamais été, n'est-ce pas, combattu par les différents gouvernements qui se sont succédés?
Oui, combattre veut dire agir, n'est-ce pas? Alors, quand il y a un phénomène qui constitue un blocage dans l'action, donc notamment le service minimum, on a connu des moments de confinement, non, Guy Maté? Vous semblez l'oublier. Il y a eu, par exemple, la commune de la Gombe, cœur de l'économie de Kinshasa, qui a été isolée pendant un temps. Et vous pensez que ça ne peut pas avoir des conséquences sur des mesures ou des stratégies de traquage des recettes par-ci par-là.
Merci beaucoup. Monsieur Steve Kivuata, vous allez aussi réagir à ce point de vue de l'auditeur qui nous appelle depuis Kasumbalesa.
C'est Jean-Marie Mwamba depuis Kasumbalesa. J'ai dit la réduction du budget n'a pas tellement sa raison d'être. Au lieu de réduire le budget d'un grand pays comme la RDC, c'est vraiment associer aussi le développement des peuples congolais. Au lieu de réduire le budget, mieux vaut seulement réduire la machine politique du gouvernement ou bien leur rémunération, afin de pouvoir donner aussi le pouvoir au peuple congolais de bénéficier aussi du développement.
Steve Kivuata?
Oui, effectivement, il a raison. Vous sentez que M. Bamporiki a du mal à nous répondre parce qu'on lui dit qu'ils ont commencé à réduire le budget depuis février. Lui nous parle toujours de la COVID-19, le plan de trésorerie qu'il se rappelle. Ils l'ont produit en février. Pendant que, après que le FMI leur ait dit que leur budget était irréaliste. Ils nous parlent de la pression fiscale qu'ils ont établie à 20%, qui est une moyenne africaine. Encore une fois de plus, c'est un élément du mensonge au Congolais. Parce que nous, au Congo, la pression fiscale a toujours été des 10%. Lorsque vous les ramenez du simple double, il faut faire de réformes fiscales, comme l'a dit mon frère Fabrice Ngabou. Effectivement, il faut faire de réformes fiscales parce qu'il faut améliorer la capacité des régies financières à collecter de recettes. Mais bien au-delà, moi je pense qu'il ne faut pas que des réformes de régies financières, il faut des réformes dans les secteurs des entreprises publiques, dont la plupart sont soit des canards boiteux, soit des canards morts. que le FCC et les CAL se sont distribués, sans pour autant voir comment le rendre plus performant. Je parle de l'ONATRA, je parle de la RVA, je parle de la Régie des Eaux, je parle de la SNEL, je parle de toutes ces entreprises publiques qui n'ont pas pu réformer, qu'ils prennent juste pour du vache à lait. Et bien plus, le monsieur qui vient de poser la question, il dit qu'il devait commencer par réduire le train de vie de l'État, qu'ils n'ont pas réduit. Parce que j'ai dit que M. Félix Tshisekedi, au niveau de la présidence, ne fait que créer de nouvelles structures qui ne font que amenuiser le fonds de l'État qu'on aurait pu mettre dans le social. Le gouvernement a aussi sa part dans le dépassement budgétaire. Mais avec Adolphe Mouzito, nous on a estimé qu'avec la crise actuelle, qui pouvait être considérée comme une opportunité, la RDC avait plus besoin d'un programme que d'un simple collectif budgétaire, parce qu'il fallait revoir même la vision du gouvernement, le programme du gouvernement. Est-ce qu'il ne faudrait pas effectivement faire de réformes qui peuvent rassurer le partenaire extérieur, qui peuvent nous donner le fonds, ne fût-ce qu'en crédit, pour construire une économie, construire les infrastructures qui peuvent améliorer l'assiette fiscale de l'État, permettre effectivement qu'il y ait une forte croissance et par là, une augmentation du budget de l'État. Parce que jusque-là, l'État n'arrive pas à construire de routes, des dessertes agricoles, de routes d'interconnexion entre provinces qui peuvent avoir un impact sur la production, sur l'économie du pays.
Mais pourquoi, à votre avis, les différents gouvernements qui se succèdent et qui évoquent toujours ces raisons-là, ces gouvernements n'ont jamais été en mesure d'initier ces réformes qui sont la condition sine qua non pour que nous puissions avoir un budget à la hauteur, n'est-ce pas, de nos ambitions?
Il y a d'une part, effectivement, les réformes que l'on peut faire sur le plan administratif, comme on dit, les réformes fiscales, mais il y a l'autre part, c'est la capacité de l'État à augmenter sa capacité d'investissement dans l'économie. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une économie qui n'est pas nationale. Nous avons des ressources que nous n'arrivons pas à exploiter au niveau des centres principaux de consommation, parce que nous n'avons pas suffisamment d'infrastructures, pas de routes, pas de chemin de fer, pas d'électricité, pas suffisamment d'eau. Ça demande d'une part effectivement ces réformes administratives, mais dans la plus grande partie, ce sont de grands investissements de l'État et des réformes sur le plan économique, comme je vous dis, dans les domaines de l'économie publique, voir comment est-ce que les entreprises publiques peuvent commencer à contribuer significativement au budget de l'État. Mais ce qui est aussi profond, on ne doit pas oublier que ce n'est pas que les réformes économiques dont nous avons besoin, nous avons aussi besoin de réformes politiques, c'est-à-dire avoir une véritable démocratie qui puisse vendre l'image de la stabilité auprès de partenaires extérieurs, auprès de bailleurs de fonds extérieurs. C'est ça aussi un élément qu'il faut intégrer dans leur contre-performance de la coalition actuelle, dont le président, c'est-à-dire M. Félix Tshisekedi, a clairement dit qu'ils n'ont jamais su gouverner ensemble parce qu'ils ont plus ou moins 7 points de divergence sur lesquels ils ne se sont jamais mis d'accord, y compris la question de la construction des infrastructures, parce qu'il en a parlé. Donc la question est globale, il y a d'une part de réformes politiques, l'instabilité de l'État qui n'a pas toujours contribué à asseoir une bonne gouvernance dans le pays, mais à la part aussi effectivement de la gouvernance économique, voir quelles sont les réformes placées sur le plan fiscal, sur le plan économique, de l'économie publique de manière générale, et la part de l'État dans l'investissement des infrastructures pour arriver effectivement à augmenter l'assiette fiscale de l'État.
Merci, nous allons commencer à conclure parce que nous sommes presque à la fin de l'émission. Monsieur Jean-Marie Bamporiki, le budget a été réduit de moitié. Et à votre avis, quelles sont les conséquences de cette réduction sur les priorités du gouvernement? Et aussi, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour que les gouvernements congolais puissent rectifier le tir pour l'avenir?
Le budget a été réduit presque de moitié, effectivement. Hier, le vice-premier ministre, ministre du budget, a eu à le dire devant l'Assemblée nationale. La conséquence, c'est qu'il y a réduction de la capacité à dépenser. On a pu quand même préserver les dépenses incompressibles, principalement les rémunérations. Mais les autres dépenses, plus particulièrement le fonctionnement, ont été revues à la baisse, évidemment en privilégiant celles liées au secteur de la santé et au secteur de la production, notamment, comme je l'ai dit, l'agriculture et le développement rural.
Alors, que faut-il pour rectifier le tir pour l'avenir, M. Bamporiki?
Bon, bien évidemment, il faut se mettre au travail, il faut la conscience pour le respect des textes, parce que tout ce qu'on doit faire est d'ores et déjà écrit. Tout est question de l'appliquer, c'est tout.
Alors, ces experts qui pensent qu'il faut nécessairement aussi réduire les trains de vie des animateurs des institutions, est-ce qu'ils ont tort?
Réduire le train de vie, c'est déjà ça avec la réduction du budget, non? Donc, il y a eu réduction du train de vie. Mais dans la réduction, il y a des dépenses qui ne sont pas facilement réductibles. C'est le cas notamment des salaires. Donc, vous comprenez que, de manière universelle, les salaires rentrent dans la catégorie de dépenses incompressibles. Mais sinon, les autres aspects des dépenses ont été sensiblement réduits.
Merci. Nous considérons ça comme votre conclusion. Monsieur Steve Kikwata, en conclusion, quelles sont les recommandations, n'est-ce pas, que vous pourrez faire, n'est-ce pas, au gouvernement pour qu'il puisse rectifier les tirs pour l'avenir par rapport au budget 2021?
Déjà, après la reconnaissance de l'échec de 2 ans de gouvernance par M. Félix Tshisekedi et la reconnaissance de la crise de gouvernabilité qui est la conséquence de la crise de légitimité, M. Bampori qui vient de nous avouer que leur gouvernement n'est fatigué qu'à payer ou à rencontrer les dépenses incompressibles, c'est-à-dire les salaires, le fonctionnement de l'État. C'est à la limite un gouvernement qui expédie les affaires courantes. Il n'y a rien de différent. Donc, ils n'ont presque rien pour les investissements. Donc, je pense qu'avec un tel aveu, ils auraient dû démissionner. Et comme je vous dis, la véritable solution, elle est politique. Normalement, il nous faut au Congo des institutions réellement légitimes qui peuvent prendre de grandes mesures de réforme et des fois impopulaires pour arriver à inverser les choses. Parce que prendre des mesures impopulaires, ça signifierait effectivement coincer les corrupteurs, mettre fin au coulage de recettes. Or, des institutions illégitimes sont par définition incapables de mettre fin à la corruption, comme on a pu le constater pendant les 100 jours de M. Félix Tshisekedi, et même maintenant, les gens sont corrompus, les gens peuvent détourner l'argent de la Covid-19, jusqu'aujourd'hui ils sont protégés. Il faut arriver effectivement à dégraisser l'État, à dégraisser le gouvernement, à dégraisser la présidence de la République. Vous savez, autant des structures qui sont créées à ces niveaux-là, qui bouffent le fonds de l'État, c'est ça la réduction du train de vie de l'État et non pas la simple réduction du budget, comme l'a dit M. Bampouriki. Et je pense que de véritables institutions légitimes pourront faire de réformes fiscales, arriver effectivement aussi à faire des investissements qui vont améliorer l'assiette fiscale de l'État, parce qu'aujourd'hui, nous ne voyons pas, avec peu d'investisseurs, avec peu d'emplois qu'il y a au Congo, comment est-ce qu'on peut sérieusement augmenter le budget de l'État.
Merci.
Donc, penser à la simple augmentation de la pression fiscale sans réforme des régies financières, sans augmenter leur capacité de pouvoir mobiliser les recettes, c'est un leurre. Ils vont toujours continuer à nous tromper. Heureusement que la réalité les a rattrapés.
Merci Fabrice Ngabo. Votre conclusion, vous avez proposé, n'est-ce pas, des réformes fiscales. Vous avez suivi Steve Kikwata, qui était d'accord avec vous, qui a ajouté un autre aspect, c'est les réformes sur le plan politique. Quelles sont les autres recommandations, n'est-ce pas, que vous pouvez faire au gouvernement pour que celui-ci puisse rectifier les tirs pour l'avenir?
Bien, merci. Avant de conclure, permettez-moi d'abord de placer un petit bémol sur les interventions intéressantes des co-débatteurs de ce soir. Je voudrais d'abord reconnaître ou noter la lucidité et l'honnêteté intellectuelle de l'honorable Bampori qui a reconnu qu'effectivement en 2020, on n'a pas eu à mettre en œuvre les réformes fiscales, bien que, a-t-il dit, étaient projetées. Ça c'est un des deux. Il faudrait que l'on lave cela dans la tête des Congolais pour raison d'honneur, n'est-ce pas, que le budget 2020 a peiné d'être exécuté, non pas à cause de coronavirus, ça ne doit pas être une raison qu'on peut mettre en réalité sur la place publique, mais plutôt à la suite d'absence des mesures d'application cohérentes que nous avons qualifiées.
Vos propositions pour améliorer le prochain budget?
Pour améliorer le prochain budget, il est important que les uns et les autres se mettent d'accord sur les réformes à mettre en œuvre. Ça, c'est un. Des deux, vous avez suffisamment insisté sur comment combattre le coulage de recettes. Nous disons oui,
qu'il faut combattre le coulage de recettes publiques, mais on ne peut y arriver que par un mécanisme contraignant et répressif. Sinon, les assujettis vont continuer à payer les recettes qui entrent dans les poches des individus. Pourtant, il y a des indicateurs clairs qu'il faut améliorer et corriger aujourd'hui. C'est le cas, je finis par là, de l'effectif des entreprises qui sont connues sur le plan officiel, qui ne s'élève qu'à moins de 11 000 contribuables. Donc il y a un certain nombre de manœuvres à faire sur le plan administratif plutôt que sur le plan politique. Enfin, pour terminer, il faudrait que les consultations qui sont menées aujourd'hui s'appellent plutôt sur les réformes plutôt que sur le partage de pouvoir, parce que ça aura été la énième fois que l'on fait le partage de pouvoir, ça ne bénéficie pas au peuple.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Polydor qui était à la technique, à Dona Madimba qui a réalisé cette émission sous la supervision d'Axel Goncho, à la présentation Guy Maté. Merci et bon suite de programme sur Radio Capi.